Chapitre 6. Ainsi, nous nous replongions dans le chaos par l'effet de cette grande division d'opinion qui régnait dans le corps législatif et au directoire. Le vaisseau de l'État, me disais-je souvent, flottera sans direction jusqu'à ce qu'il se présente un pilote qui le fasse surgir du port. Deux événements subits amenaient notre salut. D'abord, la bataille de Zurich, gagnée par Masséna le 25 septembre, qui, en refoulant les Russes et en préservant notre frontière, nous permit de nous traîner sans crise intérieure jusqu'au 16 octobre, jour où Bonaparte, débarqué à Fréjus le 9, fit sa rentrée dans Paris après avoir violé les lois de la quarantaine, préservatrice de la santé publique. Ici, arrêtons-nous un moment. Le cours des événements humains, sans nul doute, est soumis à une impulsion qui dérive de certaines causes dont les effets sont inévitables. Inaperçues par le vulgaire, ces causes frappent plus ou moins l'homme d'État. Il les découvre, soit dans certains indices, soit dans des incidents fortuits dont les inspirations l'éclairent et le guident. Voici ce qui m'était arrivé 5 ou 6 semaines avant le débarquement de Bonaparte. On vint me rapporter que 2 employés de mes bureaux avaient dit, en discutant l'état des affaires, qu'on reverrait bientôt Bonaparte en France. Je fis remonter à la source et je sus que cette espèce de prophétie n'avait d'autre fondement qu'un de ces éclairs de l'esprit qui rentrent dans la prévision involontaire. Cette idée me frappa. Je sus bientôt, par les alentours de Lucien et de Joseph, ce qu'ils en pensaient. Ils étaient persuadés que si leurs lettres et leurs paquets parvenaient en Égypte en dépit des croisières anglaises, Bonaparte ferait tout pour revenir. Mais les chances leur paraissaient si incertaines et si hasardeuses qu'ils n'osaient s'y confier. Réal, l'un des correspondants secrets de Bonaparte, alla plus loin. Il m'avoua ses espérances. J'en fis part à Barras et je le trouvai, sans avoir là-dessus aucune idée fixe. Tout en dissimulant ce que j'avais pénétré, je fis de mon côté quelques démarches, soit auprès des 2 frères, soit auprès de Joséphine, dans la vue de me rendre les 2 familles favorables. Elles étaient divisées. Je trouvais Joséphine bien plus accessible. On sait par quelle profusion irréfléchie elle perpétuait le désordre et la détresse de sa maison. Jamais elle n'avait un écu. Les 40 000 francs de revenus que lui avait assuré Bonaparte avant son départ ne lui suffisaient pas. Et pourtant, 2 envois extraordinaires d'argent, qu'on élevait à pareille somme, lui avaient été faits d'Égypte en moins d'une année. De plus, Barras me l'ayant recommandé, je l'avais comprise dans les distributions clandestines provenant du produit des jeux. Je lui remis, de la main à la main, 1 000 louis, galanterie ministérielle, qui acheva de me la rendre favorable. Je savais par elle beaucoup de choses, car elle voyait tout Paris, mais Barras avec réserve. Fréquentant plutôt Goyer, alors président du directoire, et recevant chez elle sa femme, se plaignant beaucoup de ses beaux-frères Joseph et Lucien, avec qui elle était fort mal. Ce que j'apprenais de différents côtés finit par me persuader que Bonaparte nous tomberait des nues. Aussi étais-je comme préparé à cet événement au moment même où tout le monde en fut frappé de surprise. Il n'y aurait pas eu grand mérite à venir s'emparer d'un pouvoir immense, offert aux plus entreprenants, et à recueillir les fruits d'une entreprise où il ne fallait que montrer de l'audace pour réussir. Mais abandonner son armée victorieuse, traverser les flottes ennemies, survenir tout à coup en temps opportun, tenir tous les partis en suspens, se décider pour le plus sûr, tout peser, tout balancer, tout maîtriser au milieu de tant d'intérêts et de passions contraires, et tout cela en 25 jours, suppose une grande habileté, un caractère tenace, une décision prompte. Ce court intervalle qui sépare l'arrivée de Bonaparte de la journée du 18 Brumaire, il faudrait un volume pour en décrire les particularités, ou plutôt il faudrait la plume de Tacite. Par un adroit calcul, Bonaparte s'était fait précéder du bulletin de sa victoire d'Aboukir. Il ne m'avait pas échappé que, dans certaines coteries, on le propageait avec complaisance et qu'on y ajoutait l'enflure et l'hyperbole. Depuis les dernières dépêches venues d'Égypte, on remarquait chez Joséphine et chez ses beaux-frères plus de mouvement et d'hilarité. « Ah, s'il allait nous arriver, me dit Joséphine, ce ne serait pas impossible. S'il avait reçu à temps la nouvelle de nos revers, il brûlerait de venir tout réparer, tout sauver. » Il n'y avait pas 15 jours que j'avais entendu ces paroles, et tout à coup, Bonaparte débarque. Il excite le plus vif enthousiasme à son passage à Aix, Avignon, Valence, Vienne et à Lyon surtout. On aurait dit que, partout, on sentait qu'il nous manquait un chef, que ce chef arrivait sous les auspices de la fortune. Annoncé à Paris sur tous les théâtres, la nouvelle produisit une sensation extraordinaire, une ivresse générale. Il y eut bien quelque chose de factice, une impulsion occulte, mais toute l'opinion ne se commente pas, et certes elle fut très favorable à ce retour inopiné d'un grand homme. Dès lors, il parut se regarder comme un souverain qui était reçu dans ses états. D'abord, le directoire en éprouva un secret dépit, et les républicains, par instinct, beaucoup d'alarme. Transfuge de l'armée d'Orient et violateur des lois sanitaires, Bonaparte eût été brisé devant un gouvernement fort. Mais le directoire, témoin de l'ivresse générale, n'osa pas sévir. Il était d'ailleurs divisé. Comment eût-il pu s'entendre sur une affaire aussi grave sans unanimité d'intention et de vue? Dès le lendemain, Bonaparte vint au Luxembourg rendre compte, en séance particulière, de l'état dans lequel il avait laissé l'Égypte. Là, s'efforçant de justifier son retour subit par le dessein de partager et de conjurer les dangers de la patrie, il jura au directoire, en mettant la main sur le pommeau de son épée, qu'elle ne serait jamais tirée que pour la défense de la République et celle de son gouvernement. Le directoire en parut convaincu, tant il était disposé à s'abuser. Se voyant accueilli et recherché par les gouvernements eux-mêmes, Bonaparte, bien résolu de s'emparer de l'autorité, se crut sûr de son fait. Tout allait dépendre de l'habileté de ses manœuvres. Il considéra d'abord l'état des partis. Le parti populaire, ou celui du manège, dont Jourdan était un des chefs, roulait, comme nous l'avons vu, dans le vague d'une révolution interminable. Venait le parti des spéculateurs de révolution, que Bonaparte appelait les pourris et qui avaient Barras à leur tête. Puis les modérés ou les politiques, conduits par Sieyès, s'efforçant de fixer les limites de la révolution pour en être les régulateurs et les arbitres. Bonaparte pouvait-il s'allier aux Jacobins, quand même il y eût déféré la dictature? Mais après avoir vaincu avec eux, il aurait fallu presque aussitôt vaincre sans eux. Que pouvait lui offrir réellement Barras, autre chose qu'une planche pourrie, selon l'expression même de Bonaparte? Restait le parti de Sieyès, qu'il fallait aussi abuser, l'illustre transfuge ne voulant se servir comme instrument de celui qui prétendait rester maître des affaires. Aussi, au fond, Bonaparte n'avait pour lui aucun parti qui eût l'intention de fonder sa fortune sur une usurpation manifeste. Et pourtant, il a réussi, mais en abusant tout le monde, en abusant les directeurs, Barras et Sieyès, surtout Moulin et Goyer, qui étaient les seuls de bonne foi. Il se forma d'abord une espèce de conseil privé composé de ses frères, de Berthier, Regnault de Saint-Jean d'Angély, Roederer, Réal, Bruys, et d'un autre personnage qui bientôt l'emporta sur les autres par sa dextérité, je veux parler de Monsieur de Talleyrand, qui, harcelé par le parti du manège et forcé d'abandonner le ministère, s'en faisait alors un titre dans les nouvelles intrigues. D'abord, il craignit de ne pas être accueilli par Bonaparte à cause de l'expédition d'Égypte, ou plutôt pour l'avoir conseillé. Toutefois, il sonde adroitement le terrain, se présente et emploie toutes les ressources de son esprit insinuant et souple pour captiver l'homme qui, d'un coup d'œil, voit tout le parti qu'il peut en tirer. C'est lui qui lui montre à nu les plaies du gouvernement, qui le met au fait de l'état des partis et de la portée de chaque caractère. Il sait par lui que Sieyès, traînant à sa suite Roger Ducos, médite un coup d'état. Qu'il n'est occupé que du projet de substituer à ce qui existe un gouvernement à sa façon. Que si, d'un côté, il a contre lui les républicains les plus énergiques qui se repentent de l'avoir élu, de l'autre, il a tout un parti formé que n'offre aucun autre directeur, pas même Barras, qui flotte entre Sieyès d'une part, Moulin et Goyer de l'autre. Que ces deux derniers, attachés aveuglément à l'ordre actuel des choses, penchent pour les républicains ardents et même pour les jacobins, et qu'avec plus de talent et de caractère, ils disposeraient à leur gré du conseil des 500 et même d'une bonne partie de l'autre conseil. Tout ce que lui apprend Talleyrand, ses autres conseillers le lui confirment. Quant à lui, rien ne perce encore de ses véritables desseins. Il montre en apparence un grand éloignement pour Sieyès, peu de confiance en Barras, beaucoup d'épanchement et d'intimité pour Goyer et Moulin. Il va jusqu'à leur proposer de se défaire de Sieyès à la condition d'être élu à sa place. Mais n'ayant pas l'âge voulu pour entrer au directoire, et les deux directeurs, redoutant peut-être son ambition, restent inflexibles sur l'âge. C'est alors sans doute que ses entremetteurs le rapprochent de Sieyès. Talleyrand y emploie Chénier et Chénier y emploie Daunou. Dans une première conférence entre lui, Daunou, Sieyès et Chénier, il leur donne l'assurance de leur laisser la direction du gouvernement, promettant de se contenter d'être le premier officier de l'autorité exécutive. Je tiens ceci de Chénier lui-même. Ce fut immédiatement après cette conférence que se formèrent les premiers conciliabules de députés, tantôt chez Le Mercier, tantôt chez Frècheville. Qui le croirait ? Bonaparte eut d'abord contre lui son propre frère Lucien. « Vous ne connaissez pas, disait-il à ceux qui voulaient lui confier toute la direction du mouvement qui se préparait, vous ne le connaissez pas. Une fois là, il se croira dans son camp, il commandera tout, voudra être tout. » Mais 8 jours plus tard, la coopération de Lucien fut ardente, énergique. Comme chez tant d'autres, la défiance républicaine fut assoupie par l'appât des honneurs et des richesses. On a prétendu que je n'avais été pour rien dans cette trame salutaire, que j'avais louvoyé, mais que j'en avais recueilli les fruits avec une grande souplesse. Certes, le moment où j'écris n'est pas favorable pour revendiquer l'honneur d'avoir contribué à élever Bonaparte, mais j'ai promis la vérité et j'éprouve à la dire une satisfaction qui l'emporte sur les calculs de l'amour-propre et sur tous les désappointements de l'espoir trompé. La révolution de Saint-Cloud aurait échoué si je lui avais été contraire. Je pouvais égarer Sieyès, donner l'éveil à Barras, éclairer Goyer et Moulin. Je n'avais qu'à seconder Dubois de Crancey, le seul ministre opposant, et tout croulait. Mais il y aurait eu stupidité de ma part à ne pas préférer un avenir à rien du tout. Mes idées étaient fixées. J'avais jugé Bonaparte seul capable d'effectuer les réformes politiques impérieusement commandées par nos mœurs, nos vices, nos écarts, nos excès, nos revers et nos funestes divisions. Certes, Bonaparte était trop rusé pour me dévoiler tous ses moyens d'exécution et se mettre à la merci d'un seul homme, mais il m'en dit assez pour amorcer ma confiance, pour me persuader, et je l'étais déjà, que les destinées de la France étaient dans ses mains. Dans 2 conférences chez Réal, je ne lui dissimulais pas les obstacles qu'il avait à vaincre. Ce qui le préoccupait, je le savais, c'était d'avoir à combattre l'exaltation républicaine à laquelle il ne pouvait opposer que des modérés ou des baïonnettes. Lui-même parut alors, politiquement parlant, au-dessous de Cromwell. Il avait d'ailleurs à craindre le sort de César, sans en avoir ni le brillant ni le génie. Mais, d'un autre côté, quelle différence entre lui, Lafayette et Dumouriez. Tout ce qui avait manqué à ces 2 hommes d'épée de la Révolution, il le possédait pour la maîtriser ou s'en emparer. Déjà tous les partis semblaient immobiles et dans l'attente devant lui. Son retour, sa présence, sa renommée, la foule de ses adhérents, son immense crédit dans l'opinion publique inspiraient des inquiétudes aux amants ombrageux de la liberté et de la République. Les 2 directeurs, Goyer et Moulin, devenus leur espoir, s'efforçaient de le captiver à force d'égards et de témoignages de confiance. Ils proposèrent à leurs collègues de lui déférer le commandement de l'armée d'Italie. Sieyès s'y opposa. Barras dit qu'il y avait assez bien fait ses affaires pour n'avoir pas besoin d'y retourner. Ce propos qui lui fut rendu lui donna sujet de venir au directoire provoquer une explication. Là, son ton ferme et élevé fit voir qu'il était au-dessus de la crainte. Goyer, président du directoire, lui laissant le choix d'une armée, il répondit froidement à ses instances. « Je vis bien qu'il balançait, qu'il ferait sa révolution avec Barras ou avec Sieyès. » Ce fut alors que je lui fis sentir la nécessité d'agir au plus vite, en le portant à se défier de Sieyès et à se rapprocher de Barras tant j'aurais voulu qu'il l'associât à sa politique. « Ayez, Barras, lui dis-je, soignez le parti militaire, paralysez Bernadotte, Jourdan, Augereau et entraînez Sieyès. » Je crus un moment que mes insinuations et celles de Réal triompheraient de son éloignement pour Barras. Il fut même jusqu'à nous promettre de lui faire des ouvertures ou d'en recevoir. Nous avertîmes Barras qui lui envoya une invitation à dîner pour le lendemain, c'était le 8 Brumaire. Le soir, Réal et moi, nous allâmes attendre Bonaparte chez lui pour savoir le résultat de cette conférence avec Barras. Nous y trouvâmes Talleyrand et Roederer. Sa voiture ne tarde pas à se faire entendre. Il paraît. « Eh bien, nous dit-il, savez-vous ce que veut votre Barras? Il avoue bien qu'il est impossible de marcher dans le chaos actuel. Il veut bien un président de la République. C'est lui qui veut l'être. Quelle ridicule prétention! Et il masque son désir hypocrite en proposant d'investir de la magistrature suprême. Devinez qui? Édouville, vraie mâchoire! Cette seule indication ne vous prouve-t-elle pas que c'est sur lui-même qu'il veut appeler l'attention? Quelle folie! Il n'y a rien à faire avec un tel homme. Je convainc qu'il n'y avait là rien de faisable. Mais je dis que je ne désespérais pourtant pas de faire sentir à Barras qu'il y aurait moyen de s'entendre pour sauver la chose publique. Que nous irions, Royal et moi, lui reprocher sa dissimulation et son peu de confiance, que nous l'amènerions vraisemblablement à des dispositions plus raisonnables, en lui démontrant qu'ici la ruse était hors de saison et qu'il ne pourrait rien faire de mieux que d'associer ses destinées à celles d'un grand homme. Nous nous faisions fort, ajoutâmes-nous, de l'amener à notre suite. Mais bien fait, dit-il. En effet, nous courûmes chez Barras. Il nous dit d'abord qu'il était tout simple, qu'il chercha et voulut des garanties que Bonaparte éludait sans cesse. Nous l'effrayâmes en lui faisant le tableau véridique de l'état des choses et de l'ascendant qu'exerçait déjà le général sur tout le gouvernement. Il en convint et nous promit d'aller, dès le lendemain, de bonne heure se mettre à sa disposition. Il tint parole et partit, persuadé à son retour qu'on ne pourrait rien entreprendre sans lui. Mais déjà, Bonaparte avait décidé pour Sieyès. Il avait pris avec lui des engagements. D'ailleurs, nouant des fils de tous côtés, il était le maître de choisir l'intrigue la plus utile à sa politique et à son ambition. D'un côté, il circonvenait Goyer et Moulin, de l'autre, il tenait Barras en suspens, Sieyès et Roger Ducos enchaînés. Moi-même, je ne suis guère plus instruit de ses intentions et de ses opérations que par Réal, qui servait, pour ainsi dire, entre Bonaparte et moi, de garantie mutuelle. À compter du 9 Brumaire, la conjuration se développa rapidement. Chacun fit des recrues. Talleyrand donna à Sémonville et parmi les généraux marquants, Burnonville et MacDonald. Parmi les banquiers, on eut Collot, il prêta 2 millions, ce qui fit voguer l'entreprise. On commença sourdement à pratiquer la garnison de Paris, entre autres 2 régiments de cavalerie qui avaient servi en Italie sous Bonaparte, Lannes, Murat et Leclerc, furent employés à gagner les chefs de corps, à séduire les principaux officiers. Indépendamment de ces 3 généraux, de Berthier et de Marmont, on put compter bientôt sur Serrurier et sur Lefebvre. On s'assura de Moreau et de Moncey. Moreau, avec une abnégation dont il eut ensuite à se repentir, avoua que Bonaparte était l'homme qu'il fallait pour réformer l'État. Il le désigna de son propre mouvement pour jouer le premier rôle qu'on lui avait destiné et pour lequel il n'avait lui-même ni vocation ni assez d'énergie politique. De son côté le plus actif et le plus adroit des conjurés, Lucien, secondé par Boulet de la Meurthe et par Régnier, se concertait avec les députés les plus influents dévoués à Sieyès. Dans ces conciliabules figuraient Chazal, Frégeville, Donou, Le Mercier, Cabanis, Lebrun, Courtois, Cornet, Fargue, Barraillon, Villetard, Goupil-Préfelne, Vimard, Boudeville, Cornudet, Erwin, Decloix, Rousseau, Le Jarry. Les conjurés des 2 conseils délibéraient sur le mot le plus convenable et le plus sûr d'exécution quand Dubois de Crancé alla dénoncer la conjuration aux directeurs Goyer et Moulin, demandant qu'on fût arrêté sur le champ Bonaparte et se chargeant de présider lui-même à l'accomplissement de tout ordre du directoire à cet effet. Mais les 2 directeurs se croyaient tellement sûrs de Bonaparte qu'ils se refusèrent d'ajouter foi aux informations du ministre de la guerre. Ils exigèrent de lui des preuves avant de s'ouvrir à Barras et de prendre aucune mesure. Ils voulaient des preuves et l'on conspirait tout haut, ainsi que cela se pratique en France. On conspirait chez Sieyès, chez Bonaparte, chez Murat, chez Lannes, chez Berthier. On conspirait dans les salons des inspecteurs du Conseil des Anciens et chez les principaux membres des commissions. Ne pouvant persuader ni Goyer ni Moulin, Dubois de Crancé leur dépêcha au Luxembourg un agent de police au fait de la trame et qu'il la leur dévoila tout entière. Goyer et Moulin, après l'avoir entendu, le mettent en charte privée pour conférer sur ses révélations. Cet homme, inquiet d'un procédé dont il ne conçoit pas le motif, troublé, assiégé de terreur, s'évade par une fenêtre et vient me tout divulguer. Son évasion et mes contre-mines effacent bientôt auprès des deux directeurs l'impression qu'avait faite la démarche de Dubois-Crancé dont j'avertis Bonaparte. Aussitôt, l'impulsion est donnée. Réunis Boulet, Chazal, Cabanis, Émile Gaudin et assigne à chacun son rôle. C'est dans la maison de campagne de Madame Récamier, près Bagatelle, que Lucien va combiner les mesures législatives qui doivent coïncider avec l'explosion militaire. La présidence du Conseil des 500, dont il est investi, est un des principaux leviers sur lesquels s'appuie la conjuration. De fortes passions agitaient alors Lucien, l'ambition et l'amour. Éperdument épris de Madame Récamier, femme pleine de douceur et de charme, il se croyait d'autant plus malheureux qu'ayant touché son cœur, il ne pouvait soupçonner la cause de ses rigueurs désolantes. Dans le tumulte de ses sens et de son délire, il ne perdit rien de son activité et de son énergie politique. Celle qui possédait son cœur put y tout lire et fut discrète. On avait aussi arrêté que pour mieux couvrir et masquer la trame, on donnerait à Bonaparte par souscription un banquet solennel où serait appelée l'élite des autorités premières et des députés pris dans les deux parties. Le banquet eut lieu, mais dépourvu de gaieté et sans enthousiasme. Il y régna un froid morne, un air de contrainte. Les parties s'observaient. Bonaparte, embarrassé de son rôle, s'éclipsa de bonheur, laissant les convives en proie à leurs réflexions. D'accord avec Lucien, Bonaparte eut dès le 15 Brumaire avec Sieyès une entrevue dans laquelle furent discutées les dispositions pour la journée du 18. Il s'agissait de faire disparaître le directoire et de disperser le corps législatif, mais sans violence, par des voies en apparence légales, bien entendu avec l'emploi de toutes les ressources de la supercherie et de l'audace. On arrêta d'ouvrir le drame par un décret du Conseil des Anciens ordonnant la translation du corps législatif à Saint-Cloud. Le choix de Saint-Cloud pour la réunion des deux conseils avait surtout pour objet d'écarter toute possibilité de mouvement populaire et de donner la faculté de pouvoir faire agir les troupes d'une manière plus sûre hors du contact de Paris. En conséquence de ce qui fut arrêté entre Sieyès et Bonaparte, le conseil intime des principaux conjurés, tenu à l'hôtel de Breteuil, donna le 16 au président du conseil des anciens, le Mercier, ses dernières instructions. Elles avaient pour objet d'ordonner une convocation extraordinaire dans la salle des anciens aux Tuileries pour le 18 à 10h du matin. Le signal fut donné aussitôt à la commission des inspecteurs du même conseil, présidée par le député Cornet. L'article 3 de la Constitution donnait le pouvoir au Conseil des Anciens de transférer les deux conseils hors de Paris. C'était un coup d'État déjà proposé à Sieyès par Baudin des Ardennes avant même l'arrivée de Bonaparte. Baudin était alors président de la Commission des inspecteurs des Anciens et membre influent du Conseil. Il avait eu, en 1795, une grande part à la rédaction de la Constitution, mais dégoûté de son ouvrage, il entrait dans les vues de Sieyès. Il s'était aperçu toutefois qu'il fallait un bras pour agir, c'est-à-dire un général capable de diriger la partie militaire d'un événement qui pouvait prendre un caractère grave. On avait ajourné l'exécution. À la nouvelle du débarquement de Bonaparte, Baudin, frappé de l'idée que la Providence envoyait l'homme que lui et son parti cherchaient en vain, mourut dans la nuit même, abîmé dans la joie. Le député Cornet venait de lui succéder dans la présidence de la commission des inspecteurs des anciens, devenu le principal foyer de la conjuration. Il n'avait ni le talent ni l'influence de Baudin des Ardennes, mais il y suppléa par un grand zèle et beaucoup d'activité. Ce qui importait, c'était de neutraliser Goyer, président du directoire. Or, pour le mieux abuser, Bonaparte l'engage à dîner chez lui le 18 avec sa femme et ses frères. D'un autre côté, il fut invité à déjeuner, pour le même jour, à 8h du matin, les généraux et les chefs de corps, annonçant aussi qu'il recevra la visite et les hommages des officiers de la garnison et des adjudants de la garde nationale qui sollicitaient en vain d'être admis en sa présence depuis son retour. Un seul obstacle inquiétait, c'était l'intégrité du président Goyer, qui, désabusé à temps, pouvait réunir autour de lui tout le parti populaire et les généraux opposés à la conjuration. À la vérité, j'avais les yeux ouverts. Toutefois, pour plus de sûreté, on imagina d'attirer le président du directoire dans un piège. À minuit, Madame Bonaparte lui fait remettre par son fils, Eugène Beauharnais, l'invitation amicale de venir déjeuner chez elle avec sa femme à 8h du matin. Là, lui écrit-elle, des choses essentielles à lui communiquer. Mais l'heure paraît suspecte à Goyer, et après le départ de Gênes, il décide que sa femme seule se rendra à l'invitation. Déjà, Cornet, qui préside à la commission des anciens, fait procéder mystérieusement dans ses bureaux à la convocation clandestine pour 5 heures du matin des membres qui sont dans le secret de la conjuration ou sur lesquels on peut compter. Les deux commissions de l'un et l'autre conseil étaient en permanence. La convocation ostensible des députés des anciens fut faite pour 10 heures du matin et la convocation des députés des 500 pour midi. Ce dernier conseil allait se trouver dans l'obligation de lever la séance après la simple lecture du décret de translation dont le vote était assuré aux anciens. J'avais tout disposé pour être averti à temps de ce qui se passerait, soit aux commissions, soit chez Bonaparte, soit au directoire. À 8 heures du matin, j'apprends que le président de la commission des anciens, après avoir formé par sa convocation extraordinaire une majorité factice, vient, à la suite d'une harangue boursouflée où il a représenté la République dans le plus grand péril, de faire la motion de transférer à Saint-Cloud le corps législatif et de déférer à Bonaparte le commandement en chef des troupes. On m'annonce en même temps que le décret va passer. Je monte aussitôt dans ma voiture, je vais d'abord aux Tuileries, là j'apprends que le décret est rendu, et vers les 9 heures j'arrive à l'hôtel du général Bonaparte dont la cour était déjà occupée militairement. Toutes les avenues étaient remplies d'officiers et de généraux, et l'hôtel n'était point assez vaste pour contenir la foule des amis et des adhérents. Tous les corps de la garnison de Paris et de la division avaient envoyé des officiers prendre ses ordres. J'entrai dans le cabinet ovale où se tenait Bonaparte. Il attendait impatiemment, avec Berthier et le général Lefebvre, la résolution du conseil des anciens. Je lui annonçai que le décret de translation qui lui déférait le commandement en chef venait d'être rendu et qu'il allait lui être apporté à l'instant même. Je lui réitérai mes protestations de dévouement et de zèle en le prévenant que je venais de faire fermer les barrières, d'arrêter le départ des courriers et des diligences. « Tout cela est inutile, me dit-il, en présence de plusieurs généraux qui entraient. Vous le voyez, l'affluence des citoyens et des braves accourant autour de moi vous dit assez que c'est avec et par la nation que j'agis. Je saurais faire respecter le décret du Conseil et maintenir la tranquillité publique. » À l'instant même, Joséphine survient et lui annonce d'un air contrarié que le président Goyer envoie sa femme mais qu'il ne viendra pas lui-même. Qu'on lui fasse écrire par Madame Goyer de venir au plus vite, s'écrie Bonaparte. Peu de minutes après, arrive le député Cornet, tout fier de remplir auprès du général les fonctions de messager d'État. Il lui apportait le décret qui remettait dans ses mains le sort de la République. Bonaparte, sortant aussitôt de son cabinet, fait connaître à ses adhérents le décret qu'il investit du commandement en chef. Puis, se mettant à la tête des généraux, des officiers supérieurs et de 1500 chevaux de la garnison de Paris que vient de lui amener Murat, il se met en marche vers les Champs-Élysées après m'avoir recommandé d'aller savoir le parti que prendrait le directoire en recevant le décret de translation. J'allai d'abord à mon hôtel et je donnai l'ordre de placarder une proclamation signée de moi dans le sens de la révolution qui venait de commencer. Puis je me dirigeais vers le Luxembourg. C'était un peu plus de 9 heures et je trouvais Moulin et Goyer, formant la majorité du directoire avec Barras, dans une ignorance complète de ce qui se passait dans Paris. Madame Tallien, forçant la consigne du palais, était entrée chez Barras qu'elle surprit dans le bain. Elle lui apprit la première que Bonaparte venait d'agir sans lui. « Que voulez-vous ? » s'écria l'indolent épicurien. « Cet homme-là, désignant Bonaparte par une épithète grossière, nous a tous mis dedans. » Toutefois, dans l'espoir de négocier, il lui envoie son secrétaire intime, Botho, pour lui demander modestement ce qu'il peut attendre de lui. Botho trouve Bonaparte à la tête des troupes et, s'acquittant de sa mission, en reçoit cette réponse dure « Dites à cet homme que je ne veux plus le voir. » Il venait de lui détacher Talleyrand et Bruix pour lui arracher sa démission. Entré dans les appartements du Luxembourg, j'annonçai au président le décret qui transférait les séances du corps législatif au château de Saint-Cloud. « Je suis fort étonné, me dit Goyer avec humeur, qu'un ministre du directoire se transforme ainsi en un messager du conseil des anciens. » J'ai pensé, répondis-je, qu'il était de mon devoir de vous donner connaissance d'une résolution si importante, et en même temps j'ai cru convenable de venir prendre les ordres du directoire. Il était bien plus de votre devoir, reprit Goyer d'une voix émue, de ne pas nous laisser ignorer les intrigues criminelles qui ont amené une semblable résolution. Sans doute que le prélude de tout ce qu'on s'est proposé d'attenter contre le gouvernement dans les conciliabules qu'en votre qualité de ministre de la police vous auriez dû pénétrer et nous faire connaître. Mais les rapports n'ont pas manqué au directoire, lui dis-je. Je me suis servi même de voix détournée, voyant que je n'avais pas toute sa confiance. Le directoire n'a jamais voulu croire aux avertissements. D'ailleurs, n'est-ce pas de son sein même qu'est parti le coup? Les directeurs Seyès et Roger Ducos sont déjà réunis à la commission des inspecteurs des anciens. La majorité est au Luxembourg, reprit vivement Goyer, et si le directoire a des ordres à donner, il en confiera l'exécution à des hommes dignes de sa confiance. Je me retirai alors, et Goyer s'empressa de convoquer ses deux collègues Barras et Moulin. À peine dans ma voiture que je vis arriver le messager des anciens, apportant au président la communication du décret de translation à Saint-Cloud. Goyer monte aussitôt chez Barras et lui fait promettre de se joindre à lui et à Moulin dans la salle des délibérations pour aviser à un parti quelconque. Mais telle était la perplexité de Barras qu'il était incapable d'adopter une résolution énergique. En effet, il ne tarda pas de mettre en oubli sa promesse à Goyer quand il vit entrer chez lui les deux envoyés de Bonaparte, Bruix et Talleyrand, chargés de négocier sa retraite du directoire. Ils lui déclarèrent d'abord que Bonaparte est déterminé à employer contre lui tous les moyens de force qui sont en son pouvoir s'il essaye de faire la moindre résistance pour entraver ses projets. Voir ainsi effrayé, les deux habiles négociateurs lui font les plus belles promesses s'il consent à donner sa démission. Barras se récrit, mais il cède enfin aux arguments des deux hommes adroits et souples. Il lui réitère l'assurance que rien ne lui manquera pour mener une vie joyeuse et tranquille, hors des embarras d'un pouvoir qu'il ne saurait retenir. Talleyrand avait une lettre toute rédigée que Barras était censé adresser à la législature pour lui notifier sa résolution de descendre à la vie privée. Placé ainsi entre la crainte et l'espérance, il finit par signer tout ce qu'on voulut, et s'étant mis ainsi à la discrétion de Bonaparte, il quitta le Luxembourg et partit pour sa terre de Grosbois, escorté et surveillé par un détachement de dragons. Ainsi, à 9 heures du matin, il n'y avait déjà plus de majorité au directoire. Arrive Dubois de Crancé, qui, persistant dans son opposition, sollicite de Goyer et de Moulin l'ordre de faire arrêter avec Bonaparte, Talleyrand, Barras et les principaux conjurés, se chargeant, comme ministre de la guerre, d'arrêter Bonaparte et Murat sur le chemin même de Saint-Cloud. Peut-être Moulin et Goyer, désabusés enfin, eussent-ils cédé aux vives instances de Dubois de Crancé si la garde, secrétaire général du directoire, qui était gagné, n'eût déclaré qu'il se refuserait à contresigner tout arrêté qui ne réunirait pas la majorité du directoire. « Au surplus, dit Goyer, refroidi par cette observation, comment voulez-vous qu'il y ait une révolution à Saint-Cloud ? Je tiens ici, en ma qualité de président, les sceaux de la République. » Moulin ajouta que Bonaparte devait dîner avec lui chez Goyer et qu'il verrait bien ce qu'il avait dans le cœur. J'avais jugé depuis longtemps la portée de ces hommes si peu faits pour gouverner l'État. Rien n'était comparable à leur aveuglement et à leur ineptie. On peut dire qu'ils se sont trahis eux-mêmes. Déjà, les événements se développaient. Bonaparte, à cheval, suivi d'un nombreux état-major, s'était dirigé aux Champs-Élysées, où plusieurs corps étaient en bataille. Après s'être fait reconnaître pour leur général, il s'était porté aux Tuileries. Le temps était magnifique et l'on put déployer tout l'appareil militaire, soit aux Champs-Élysées, soit sur les quais, soit dans le Jardin national, qui, en un instant, fut transformé en parc d'artillerie et où l'affluence devint excessive. Bonaparte fut salué aux Tuileries par les acclamations des citoyens et des soldats. S'étant présenté avec une suite militaire à la barre du Conseil des Anciens, il éluda de prêter le serment constitutionnel. Puis, descendant du château, il vint haranguer les troupes disposées à lui obéir. Là, il apprend que le directoire est désorganisé. que Sieyès et Roger Ducos sont venus déposer leur démission à la commission des inspecteurs des anciens, et que Barras, circonvenu et rompant la majorité, est à la veille de souscrire aux conditions de sa retraite. Passant aux commissions des inspecteurs réunies, le général y trouve Sieyès, Roger Ducos et plusieurs députés de leur parti. Goyer, président du directoire, avec son collègue Moulin, et qui tous deux refusent leur adhésion à ce qui se passe. Une explication s'engage entre Goyer et Bonaparte. Mes projets, lui dit ce dernier, ne sont point hostiles. La République est en péril, il faut la sauver, je le veux. Au même instant, on vient dire que le faubourg Saint-Antoine remue, excité par Santerre. C'était le parent de Moulin. Bonaparte, se tournant vers lui et l'interpellant sur ce fait, lui dit qu'il enverrait tuer Santerre par un détachement de cavalerie s'il osait bouger. Moulin rassura Bonaparte et déclara que Santerre ne pouvait plus rassembler autour de lui 4 hommes. En effet, ce n'était plus là le chef d'insurrection de 1792. Je répétais moi-même qu'il n'y aurait pas l'ombre d'un mouvement populaire et que je répondais de la tranquillité de Paris. Goyer et Moulin, voyant que l'impulsion est donnée, que le mouvement est irrésistible, rentrent au Luxembourg pour être témoins de la défection des gardes. Tous deux y sont bientôt assiégés par Moreau, car déjà Bonaparte a prescrit des dispositions militaires qui mettent en son pouvoir toutes les autorités et tous les établissements publics. Démarché Moreau avec une colonne pour investir le Luxembourg, il a donné au général Lannes le commandement des troupes chargées de la garde du corps législatif. Il a envoyé Murat en toute hâte pour occuper Saint-Cloud, tandis que Serrurier reste en réserve au point du jour. Il chemine sans obstacle, ou du moins aucune opposition n'éclate dans la capitale où la révolution semble avoir l'assentiment universel. Le soir, on tint conseil à la commission des inspecteurs, soit afin de préparer les esprits aux événements qui le lendemain devaient éclore, soit pour régler ce qui devait se passer à Saint-Cloud. J'étais présent, et là je vis pour la première fois à découvert et en présence les deux partis unis dans le même but, mais dont l'un semblait déjà s'effrayer de l'ascendant du parti militaire. On discuta d'abord beaucoup, sans trop s'entendre et sans rien conclure. Tout ce que proposait Bonaparte, tout ce qu'il faisait proposer par ses frères, sentait la dictature du sabre. Les hommes de la législature qui s'étaient jetés dans son parti venaient me prendre à part et m'en faire la remarque. « Mais c'est fait, leur dis-je, le pouvoir militaire est dans les mains du général Bonaparte, c'est vous-même qui le lui avez déféré, et vous ne pourriez faire un pas sans sa dictature. » Je vis bientôt que la plupart auraient voulu rétrograder, mais qu'il n'y avait plus moyen. Les plus timorés se mirent à l'écart, et quand on fut débarrassé des incertains et des peureux, on convint de l'établissement de 3 consuls provisoires, savoir Bonaparte, Sieyès et Roger Ducos. Sieyès ensuite fit la proposition de faire arrêter 40 de meneurs opposants, ou supposait-elle. Je fis dire à Bonaparte par Réal de n'y point consentir, et dans ses premiers pas dans la carrière du pouvoir suprême, de ne pas se rendre l'instrument des fureurs d'un prêtre haineux. Il me comprit et allégua que l'expédient était trop prématuré, qu'il n'y aurait ni opposition ni résistance. « Vous verrez, demain à Saint-Cloud, lui dit Sieyès d'un air piqué. » J'avoue que je n'étais pas moi-même très rassuré sur l'issue de la journée du lendemain. Tout ce que je venais d'entendre et toutes les informations qui me parvenaient s'accordaient sur ce point que les moteurs du mouvement ne pouvaient plus compter sur la majorité parmi les membres des 2 conseils. Presque tous étant frappés de l'idée qu'on voulait détruire la Constitution pour établir le pouvoir militaire. Une grande partie des affiliés repoussait la dictature et se flattait de la conjurer. Mais déjà Bonaparte exerçait une influence immense hors et dans la sphère de ses autorités chancelantes. Versailles, Paris, Saint-Cloud et Saint-Germain adhéraient à sa révolution et son nom parmi les soldats était un vrai talisman. Son conseil privé donna pour meneur aux députés des anciens, Régnier, Cornudet, Lemercier et Fargue, et pour guide aux députés du conseil des 500, dévoués au parti, Lucien Bonaparte, Boulet de la Meurthe, Émile Gaudin, Chazal et Cabanis. De leur côté, les membres opposants des 2 conseils réunis au coryphée du manège passèrent la nuit en conciliabule. Le lendemain, de bonne heure, la route de Paris à Saint-Cloud fut couverte de troupes, d'officiers à cheval, de curieux, de voitures remplies de députés, de fonctionnaires et de journalistes. Les salles pour les deux conseils venaient d'être préparées à la hâte. On s'aperçut bientôt que le parti militaire dans les deux conseils était réduit à un petit nombre de députés plus ou moins ardents pour le nouvel ordre des choses. J'étais resté à Paris, siégeant dans mon cabinet avec toute ma police en permanence, ayant l'œil à tout, recevant et examinant moi-même les rapports. Caché à Saint-Cloud, un certain nombre d'émissaires adroits et intelligents pour se mettre en contact avec les personnages qui leur étaient désignés, et d'autres agents qui, se relevant de demi-heure en demi-heure, venaient m'informer de l'état des choses. Je fus tenu ainsi au courant du moindre incident et de la plus petite circonstance qui pouvait influer sur le dénouement prévu. J'étais fixé dans l'idée que l'épée seule trancherait le nœud. La séance s'ouvrit aux 500 que présidait Lucien Bonaparte par un discours insidieux d'Émile Gaudin, tendant à faire nommer une commission chargée de présenter de suite un rapport sur la situation de la République. Émile Gaudin, dans sa motion concertée, demandait en outre qu'on ne prît aucune détermination quelconque avant d'avoir entendu le rapport de la commission proposée. Boulet de la Meurthe tenait déjà le rapport tout prêt. Mais à peine Émile Gaudin eut-il fait sa proposition qu'une effroyable tempête agita toute la salle. Les cris de « Vive la Constitution !»« Point de dictature !»« À bas le dictateur !» se firent entendre de tous côtés. Sur la motion de Delbrel, appuyée et développée par Grand Maison, l'Assemblée, se levant tout entière au cri de « Vive la République !», décida qu'elle renouvellerait individuellement le serment de fidélité à la Constitution. Ceux même qui étaient venus avec le projet formé de la détruire prêtèrent le serment. La salle des anciens était presque aussi agitée, mais là le parti sieyait ses Bonaparte qui voulait se hâter d'ériger un gouvernement provisoire, établi en fait par une fausse déclaration du sieur Lagarde, secrétaire général du directoire, que tous les directeurs avaient donné leur démission. Aussitôt, les opposants demandent qu'on s'occupe du remplacement des démissionnaires dans les formes prescrites. Bonaparte, averti de ce double orage, juge qu'il est temps de se mettre en scène. Il traverse le salon de Mars et entre au Conseil des Anciens. D'une harangue verbeuse et entrecoupée, il déclare qu'il n'y a plus de gouvernement et que la Constitution ne peut plus sauver la République. Conjurant le Conseil de se presser d'adopter un nouvel ordre des choses, il proteste qu'il ne veut être, à l'égard de la magistrature qu'on va nommer, que le bras chargé de la soutenir et de faire exécuter les ordres du Conseil. Angle dont je ne rapporte que la substance fut débitée sans ordre et sans suite. Elle attestait le trouble qui agitait le général, qui tantôt s'adressait aux députés, tantôt se tournait vers les militaires restés à l'entrée de la salle. Des cris de « Vive Bonaparte !» et l'assentiment de la majorité des anciens l'ayant rassuré, il sortit dans l'espoir de faire la même impression sur l'autre conseil. Il n'était pas sans appréhension, sachant ce qui s'était passé et avec quel enthousiasme on y avait juré fidélité à la Constitution républicaine. Un message au directoire venait d'y être décrété. On faisait la motion de demander aux anciens la communication des motifs de la translation à Saint-Cloud lorsqu'on reçut la démission du directeur Barras transmise par l'autre conseil. Cette démission, ignorée jusqu'alors, causa un grand étonnement dans l'assemblée. On la regarda comme le résultat d'une profonde intrigue. Au moment même où l'on agitait la question de savoir si la démission était légale et formelle, arrive Bonaparte, suivi d'un peloton de grenadiers. Avec quatre d'entre eux, ils s'avancent et laissent le reste à l'entrée de la salle. Et par la réception des anciens, ils se flattaient d'assoupir la fièvre républicaine qui agitait les 500. Mais à peine a-t-il pénétré dans la salle que le plus grand trouble s'empare de l'assemblée. Tous les membres debout font éclater par des cris la profonde impression que leur cause l'apparition des baïonnettes et du général qui vient militairement dans le temple de la législature. « Vous violez le sanctuaire des lois, retirez-vous !» lui disent plusieurs députés. « Que faites-vous, téméraire ?» lui crie Bigonnet. « C'est donc pour cela que tu as vaincu !» lui dit de Strem. En vain, Bonaparte, arrivé à la tribune, veut balbutier quelques phrases. De toutes parts, il entend répéter les cris de « Vive la Constitution ! Vive la République !» De tous côtés, on l'apostrophe. « À bas le Cromwell, à bas le dictateur, à bas le tyran, hors la loi le dictateur !» s'écrient les députés les plus furieux. Quelques-uns s'élancent sur lui et le repoussent. « Tu feras donc la guerre à ta patrie !» lui crie Arena en lui montrant la pointe de son poignard. Les grenadiers, voyant pâlir et chanceler leur général, traversent la salle pour lui faire un rempart. Bonaparte se jette dans leurs bras et on l'emporte. Ainsi dégagé, la tête perdue, il remonte à cheval, prend le galop et se dirigeant vers le pont de Saint-Cloud, crie à ses soldats « Ils m'ont voulu tuer, ils m'ont voulu mettre hors la loi, ils ne savent donc pas que je suis invulnérable, que je suis le dieu de la foudre !» Enjoint sur le pont, « Il n'est pas raisonnable, lui dit-il, que celui qui a triomphé de tant d'ennemis puissants redoute les bavards. Allons, général, du courage, et la victoire est à nous !» Bonaparte alors tourne bride et se présente de nouveau à ses soldats, cherchant à exciter les généraux à en finir par un coup de main. Mais Lannes, serrurier, Murat lui-même, se montre peu disposé d'abord à diriger les baïonnettes contre la législature. Cependant, le plus effroyable tumulte régnait dans la salle. Ferme au fauteuil de la présidence, Lucien faisait de vains efforts pour rétablir le calme, demandant avec instance à ses collègues que son frère fût rappelé, entendu, et n'obtenant d'autres réponses que des cris « Hors la loi, aux voix la mise hors la loi contre le général Bonaparte !» On alla jusqu'à le sommet de mettre aux voix la mise hors la loi contre son frère. Lucien, indigné, quitte le fauteuil, abdique la présidence et en dépose les marques. Il descendait à peine de la tribune que des grenadiers arrivent, l'enlèvent et le mènent au dehors. Lucien interdit apprend que c'est par ordre de son frère qu'il appelle à son secours, décidé à employer la force pour dissoudre la législature. Tel était l'avis de Sieyès. Relégué dans une chaise attelée de 6 chevaux de poste, il attendait l'issue des événements à la grille de Saint-Cloud. Il n'avait plus à balancer. Pâles et tremblants, les plus zélés partisans de Bonaparte étaient pétrifiés, tandis que les plus timides se déclaraient déjà contre son entreprise. On remarquait Jourdan et Augereau se tenant à l'écart et pillant l'instant favorable d'entraîner les grenadiers dans le parti populaire. Mais Sieyès, Bonaparte et Talleyrand, venus à Saint-Cloud avec Roederer, avaient jugé, ainsi que moi, que le parti n'aurait ni bras ni tête. Lucien, inspirant à Bonaparte toute son énergie, monte à cheval et, en sa qualité de président, requiert le concours de la force pour dissoudre l'assemblée. Il entraîne les grenadiers, qui se portent en colonne serrée, conduits par Murat, dans la salle des 500, tandis que le colonel Moulin fait battre la charge. La salle envahit au bruit des tambours et aux cris des soldats, les députés sautent par les fenêtres, jettent leurs toges et se dispersent. Tel fut le dénouement de la journée de Saint-Cloud, 19 Brumaire, 10 novembre. Bonaparte en fut particulièrement redevable à l'énergie de son frère Lucien, à la décision de Murat, et peut-être à la faiblesse des généraux qui, lui étant opposés, n'osèrent se montrer à visage découvert. Mais il fallait rendre nationale une journée antipopulaire où la force avait triomphé d'une cohue de représentations qui n'avait montré ni véritable orateur ni chef. Il fallait sanctionner ce que l'histoire appellera le triomphe de l'usurpation militaire. Sieyès, Talleyrand, Bonaparte, Roederer, Lucien et Boulet de la Meurthe, qui étaient l'âme de l'entreprise, décident qu'il faut se hâter de rassembler les députés de leur parti errant dans les appartements et dans les corridors de Saint-Cloud. Boulet et Lucien se mettent à leur recherche, en rassemblent 25 ou 30 et les constituent en conseil des 500. De ce conciliabule sort bientôt un décret d'urgence portant que le général Bonaparte, les officiers généraux et les troupes qui l'ont secondé ont bien mérité de la patrie. Les meneurs arrêtent ensuite qu'on établira en fait dans les journaux du lendemain que plusieurs députés ont voulu assassiner Bonaparte et que la majorité du conseil a été dominée par une minorité d'assassins. Vint ensuite la proclamation de l'acte du 19 Brumaire, concerté aussi entre les meneurs pour servir de fondement légal à la Révolution nouvelle. Cet acte abolissait le directoire, instituait une commission consulaire exécutive composée de Sieyès, de Roger Ducos et de Bonaparte, conseil, et en excluait 62 membres du Parti populaire, parmi lesquels figurait le général Jourdan. Il établissait en outre une commission législative de 50 membres, pris également dans l'un et l'autre conseil, à l'effet de préparer un nouveau travail sur la constitution de l'État. Apporté du conciliabule des 500 au conseil des anciens pour être transformé en loi, cet acte n'y fut voté que par la minorité, la majorité étant restée morne et silencieuse. Ainsi, l'établissement intermédiaire du nouvel ordre des choses fut converti en loi par une soixantaine de membres de la législature qui, d'eux-mêmes, se déclarèrent aptes aux emplois de ministre, d'agent diplomatique et de délégué de la commission consulaire. Avec ses deux collègues, vint prêter serment dans le sein du Conseil des Anciens et le 11 novembre, vers les 5 heures du matin, le nouveau gouvernement, quittant Saint-Cloud, alla s'installer au palais du Luxembourg.